France Inter.
Aujourd'hui, comment le tourisme dévore le monde, raconté par
Aude Vidal, essayiste,
et Saskia Cousin, anthropologue.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
Xavier, éleveur de brebis et de chèvres, raconte son dernier voyage sur son stand au marché. C'était au Laos, il y a 20 ans. L'insatisfaction de rester entre touristes et l'opportunité de visiter un village loin de tout, atteignable seulement en bateau, sans une guest house, mais habitué à recevoir des visiteurs. Sa compagne Séverine et lui y restent une semaine, malgré ce rêve de routard, eh bien le compte n'y est toujours pas. C'est là que tu te dis qu'on n'arrive pas à sortir de ce rapport du décor et du mec qui le consomme et qu'il n'y a qu'une solution, c'est d'arrêter. Maintenant, on fait partie du décor, fin de l'histoire. C'est nous qu'on regarde. Ça fait 20 ans qu'on n'a pas vraiment envie de voyager. On aurait juste envie de se balader, mais pas pour aller dans le monde entier, plutôt pour aller voir des gens. Si je ne connais personne quelque part, je n'ai plus envie d'y aller. Bien que le voyage au soleil, à l'hôtel ou au camping, de préférence dans un pays étranger, symbolise les vacances, le séjour en France est une norme et plus de la moitié des séjours se passe dans un cadre non marchand, chez des amis ou chez des parents. Le non-départ en vacances, quant à lui, n'a pas vraiment de nom, bien que ce soit une pratique très commune, puisque 37% de personnes n'étaient pas parties en vacances en 2019. Les départs en vacances sont fortement corrélés au niveau de vie ainsi qu'aux conditions d'emploi, mais le non-départ, le plus souvent subi, peut également faire l'objet d'un véritable choix, en particulier pour des personnes vivant dans une maison avec jardin et appréciant un temps ni totalement domestique, ni totalement vacancier, mais différent par les rythmes, les activités, les sociabilités, plus déliées et plus choisies pour ceux qui l'organisent, propice par exemple à une plus grande qualité des liens familiaux. Savoir rester chez soi pour explorer et créer à l'échelle du voisinage, considérer dans toute sa diversité les pistes d'une vie quotidienne joyeuse et vivable, représente un acte authentiquement populaire. Une question alors se pose, de quelle vie voulons-nous, celle qui nous satisfait jour après jour, ou celle qui nous fait vivre des moments aussi précieux qu'ils sont artificiels et de toute manière rares? C'est cette question que nous allons explorer avec nos invités. Aude Vidal et Saskia Cousin, bonjour.
Bonjour.
Merci
bonjour.
D'être avec nous. Aude Vidal, le texte que je viens de lire est extrait de votre ouvrage « Dévorer le monde » qui est sorti l'année dernière chez Payot et qui parle voyage, capitalisme et domination. Saskia Cousin, vous aviez quant à vous publié « Sociologie du tourisme » avec Bertrand Réaud. C'était en 2016. La façon de voyager et de faire du tourisme, ça a beaucoup évolué justement ces 10 dernières années, Saskia Cousin?
Structurellement, non. C'est-à-dire, si on part du nombre de personnes, la façon dont elles partent, non. Par contre, il y a certaines personnes, certaines catégories sociales qui partent beaucoup plus. Qui vont partir, par exemple, 10 fois dans l'année pour des courts séjours, ce qui était peut-être moins facile avant. Ouais. Mais il n'y a pas un changement structurel, c'est la première chose. Et puis, deuxièmement, évidemment, l'arrivée du numérique, la manière dont on prépare ses vacances et aussi la manière dont on la raconte existait déjà en 2016, mais elle a beaucoup changé ces dernières années.
Mais l'industrie touristique, elle a quand même pas un petit peu évolué, en particulier depuis le Covid d'ailleurs?
Alors l'industrie touristique, c'est-à-dire qu'elle existait, il y a ce qu'on appelle le capitalisme de plateforme, qui existait déjà dans les années 2010, mais qui est devenu omniprésent, hégémonique, tout ce qui est plateforme de réservation, vol sec, etc., qui vont avoir une emprise plus large, à la fois sur les consommations, où est-ce que vous allez, il n'y a plus d'agence pratiquement de voyage au coin de votre rue, et puis aussi dans la manière, comment sont répartis les bénéfices, et où sont envoyés les gens, puisque ça amène à une concentration des achats et donc des destinations.
Aude Vidal, cette question qui se pose dont vous parlez dans votre livre, de quelle vie on veut, est-ce que nous sommes satisfaits, le fait de vivre simplement ces moments précieux ici sur le territoire, ou au contraire, de choisir d'autres manières de voyager, c'est une question que vous vous posez vous depuis longtemps ou pas ?
Oui, c'est une question qui m'est un peu tombée dessus aussi quand j'ai commencé à voyager assez loin.
C'est-à-dire que quand j'étais plus jeune, je voyageais assez près, mais fréquemment. Et j'avais un goût pour le voyage que j'interrogeais pas. J'avais juste envie d'ailleurs. Je suis polyglotte et ça correspondait à des intérêts de curiosité qui étaient aussi une curiosité intellectuelle. Et puis, je suis partie sur la piste, un peu par hasard, sur la piste touristique en Asie du Sud-Est. Et j'étais assez choquée par... une sorte de qui est à la fois rituel et à la fois de rupture des séjours de rupture mais qui sont à la fois très très moutonniers avec un certain individualisme qui se dégage de ça mais tout qui s'inscrit dans un quelque chose de social qui est très construit avec des destinations avec des récits avec des manières d'être qui sont assez stéréotypées.
Ouais, et à partir de ce moment-là, vous avez posé la question en fait de votre propre façon de voyager.
Oui, bien sûr. Mais j'avais déjà acheté, je pense que depuis les années 2000, je faisais partie de ces écolos qui essaient de ne pas prendre l'avion. Parce qu'il y a beaucoup d'écolos qui prennent l'avion. Mais...
Dès les années 2000.
Ouais. J'étais à la Fédération des jeunes écolos européens.
Avec un frère steward, je livre cette information intime, c'est ce que vous me disiez hors antenne, mais c'est vrai que ça ne facilite pas quand même les choses.
Ça c'est plus récent, mais je sais qu'on était... alors c'est des gens qui voyagent beaucoup dans l'Europe entière, et je faisais partie des seuls qui essayaient de venir en bus ou en train.
Ouais.
Et la plupart des gens qui multipliaient les voyages n'étaient pas disposés à perdre beaucoup de temps. Il y avait un côté de gens blasés du voyage. On parle de jeunes écolos de 23 à 25 ans, qui étaient blasés du voyage, qui avaient envie d'expédier leur transport très très vite. Et moi, dès cette époque, oui, je faisais partie du groupe plutôt décroissant, donc j'étais pas du tout dans ce...
Ouais.
Dans ce truc-là, et je me suis fait des voyages de 23 heures en bus abominable que je ne referai plus jamais.
Ouais. Saskia Cousin, ces questions-là, elles émergent depuis quelque temps quand même dans l'esprit du public ou seulement des écolos sur cette façon de voyager.
Alors, je ne sais pas ce que vous entendez par écolo, mais avoir une conscience écologique... Bon,
c'est ça dont il s'agit.
Ce qui est intéressant, c'est de voir que structurellement, c'est quand même ceux qui en parlent le moins... qui font le moins, en fait. C'est-à-dire 80% de la population mondiale n'a jamais pris l'avion, 80% des Français partent en vacances, en tout cas des résidents français partent en vacances en France, entre 75 et 80%, et n'ont pas forcément besoin de cette conscience-là. Et donc on voit que ceux qui prennent le plus l'avion, structurellement, en termes de classe d'âge, par exemple, les 18-30 ans, sont aussi ceux qui... au sein de cette classe d'âge, vont être ceux qui vont choisir d'arrêter de prendre l'avion. Donc ça dépend si on parle en tant que sociologue ou en tant qu'individu. Il y a Garance Bazin qui fait sa thèse là-dessus, justement, sur ce problème, cette injonction paradoxale de jeunes qui ont une vraie conscience écologique, et puis qui en même temps, en fait, ont beaucoup de mal à renoncer, mais même à avoir conscience du fait qu'un aller-retour Paris-Bali, c'est 27 ans de tri de déchets. C'est-à-dire, c'est pas seulement avoir conscience, c'est se rendre compte des échelles, en fait.
Ouais. Aude Vidal, la question de l'empreinte carbone du tourisme, évidemment, elle est centrale quand on s'intéresse au voyage, puisqu'elle a augmenté d'ailleurs à un rythme deux fois supérieur à celui de l'économie mondiale ces dernières années, ce qui rend évidemment l'idée même, l'objectif de décarboner cette industrie extrêmement ambitieux. C'est ce que nous dit la revue Nature, il y a une étude parue en décembre dernier sur la question. Donc c'est un secteur qui pèse quand même beaucoup, hein.
Ouais, c'est un secteur qui pèse beaucoup, mais quand on parle de décarbonation, en fait, on parle très vite de compensation. Et le sociologue Jean-Baptiste Combi a montré que les classes les plus aisées, celles qui voyagent le plus, vont aussi être très facilement attirés par le concept de compensation et vont s'imaginer qu'on peut compenser.
Ce qu'ont bien compris les compagnies aériennes, par exemple.
Hein. Exactement. Alors, il y a les compensations avec les plantations d'arbres qui sont scandaleuses. Mais il y a aussi la compensation en je pars en avion, mais une fois sur place, je ne prendrai que des transports terrestres. Mais je pars en avion, mais je suis végane. Je pars en avion, mais... Et donc, il y a les gens s'arrangent avec ça en compensant un peu dans leur voyage. Et Jean-Baptiste Combi, qui s'intéresse à la manière dont les classes sociales envisagent différemment l'écologie, et notamment l'écologie au quotidien, montre qu'il y a vraiment un truc de classe aisée, de bourgeoisie, de s'en tenir comme ça à la compensation plutôt qu'à penser en termes de réduction des croissances.
Saskia Cousin, est-ce que la grande question aujourd'hui, c'est comment on réfléchit à nos façons de voyager à l'heure de l'effondrement du vivant? Est-ce que ça, c'est la question centrale, en fait, aujourd'hui?
Alors, la question centrale, c'est l'effondrement du vivant. Et après, c'est comment individuellement et collectivement on voyage. Je pense qu'il y a une responsabilité collective, et notamment des institutions internationales, des conventions internationales. Donc, je suis pas pour la culpabilisation des individus. Je pense que c'est contre-productif et ça amène des backlash. Par contre, avoir conscience de
justement des échelles et pouvoir travailler, on va dire, c'est un combat dans l'imaginaire, c'est-à-dire aujourd'hui, ben, si vous êtes passé un mois à ne rien faire en Creuse, c'est moins valorisant que si vous passez un mois à ne rien faire, en tout cas pour certaines catégories sociales. Donc il y a à la fois un combat dans les imaginaires qui me paraît urgent, mais il y a surtout un enjeu politique. On ne peut pas dire aux gens arrêtez de prendre l'avion si par ailleurs il n'y a aucun choix qui est fait à l'échelle internationale, européenne ou nationale en ce sens.
On en reparlera évidemment avec vous au cours de cette émission sur les outils à mettre en place, peut-être pour essayer un petit peu de changer la courbe. Le voyage touristique, Aude Vidal, vous le dites bien d'ailleurs dans votre livre, ça occupe une place très importante dans nos imaginaires, puisque vous en parliez, au point de devenir, écrivez-vous, un passage presque obligé. Ça fait partie des obligations sociales, évidemment toujours pour ceux qui en ont les moyens.
Oui, c'est quelque chose qu'on observe particulièrement au niveau des études. En fait, l'année de césure à l'étranger, elle est devenue obligatoire en commençant par les grandes écoles et les écoles prestigieuses.
Oui.
Je me souviens d'un centralien qui me racontait le discours du directeur de l'école qui disait « l'anglais n'est pas une langue étrangère ». Donc il fallait en plus faire des voyages, enfin faire des années de césure hors des sentiers battus.
Oui.
Et donc tous les programmes Erasmus comme ça qui sont un peu massifiés, on observe que maintenant il faut aller plus loin, il faut aller à Singapour, il faut aller aux États-Unis ou au Canada ou en Australie pour avoir un cursus, pour mettre cette ligne dans le cursus. Et plus la destination est lointaine, et plus elle est prestigieuse. Et c'est une ligne qui est même devenue obligatoire.
Ouais. Donc ça a un poids considérable, si on veut essayer de changer les choses un petit peu. C'est-à-dire qu'il faut déjà combattre nos propres imaginaires et notre représentation du voyage.
Oui, je pense qu'il faut combattre nos imaginaires, mais sans culpabilisation et puis sans concours de vertu.
Saskia Cousin.
Je pense que, enfin, il y a quelque chose de profondément, on va dire, humain et anthropologique au moment du passage à l'âge d'homme ou l'âge de femme, qui est de faire un voyage. Tous les rites d'initiation sont, enfin,
que ce soit loin ou proche d'ailleurs,
loin ou proche, il y a l'idée d'aller voir de l'autre côté de la colline. Et en fait, dans toutes les sociétés, là, ce dont on parle, c'est un tout petit, enfin, une petite partie où là, c'est problématique parce qu'il y a cet enjeu de distinction sociale, de prendre l'avion, d'aller toujours plus loin.
Mais c'est 10% de la population, hein.
C'est 1%.
En gros, hein.
Voilà, c'est 10% qui prend l'avion à l'échelle mondiale, mais c'est 1% qui a des vols fréquents. Je crois que c'est 1% de la population mondiale qui fait 50% des voyages. Mais par contre, ce qui est important, c'est aussi de conserver la possibilité pour des classes d'âge, en fait, d'aller voir de l'autre côté de la colline. Donc, il faut faire attention à pas jeter la colline avec l'eau du bain.
Absolument.
Voilà.
On va y revenir sur la question, d'ailleurs, du tourisme de masse qu'on accuse toujours être responsable de tous nos maux. On va en discuter dans un instant. Et puis, amis auditeurs et auditrices, bien sûr, dites-nous si vous pensez, si vous réfléchissez en tout cas à votre façon de voyager, si vos voyages ont changé ces dernières années. On en discutera ensemble avec vos messages et vos questions. Vous pouvez nous envoyer dès maintenant sur la page de La Terre au Carré.
La Terre au Carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
1936, c'est Léon Blum et congés payés, le Front Populaire.
Vacances nouveau style puisqu'elles sont payées. En train, en auto, en autostop, méthode nouvelle pour voyager. À vélo, à pied, sac au dos, chaussettes retroussées sur les godillots, le français part. La ruée vers les plages débute. On retrouve au bain de mer les habitués de longtemps. Maurice de Rothschild, qui n'est pas un congé payé. Vendongen, qui suit les jambes mais peint les dos. Johnny Hayes et Charles Trenet.
Voilà, l'année 1936, si importante évidemment pour les Français, extrait de Dim Dam Dom, émission de 1970 sur le RTF. Faut-il en finir avec le tourisme? Question quelque peu provocante à quelques jours des départs en vacances, et moi j'en ai bien besoin de partir en vacances. On en parle avec les anthropologues Aude Vidal et Saskia Cousin. Est-ce que le grand responsable, Saskia Cousin, justement, c'est le tourisme de masse, puisqu'on en parle de plus en plus, avec toute la condescendance que l'on peut souligner d'ailleurs en posant la question même?
Alors, tourisme de masse, en tout cas en sociologie ou anthropologie, ça veut rien dire. C'est, on pourrait dire, racisme de classe aussi. Donc, ça, en fait, la question, c'est la pression. 10 personnes dans un espace peuvent avoir plus d'effet, un impact plus négatif que 10 000 dans une station qui a été créée, aménagée et qui est pensée pour ça. Donc le problème, c'est plutôt de penser tout en termes de tourisme, c'est-à-dire industrie de la consommation de l'espace, alors que en termes de pratique, en termes de désir et aussi en termes d'impact écologique, les vacances, c'est-à-dire le moment où on ne fait rien, on jouit du temps.
C'est ça, parce que la notion de vacances, elle nous dit quoi? Enfin, c'est quoi les vacances pour vous?
Alors les vacances vacarées, hein, c'est bon, il y a toute une histoire, mais c'est d'abord le moment où on moissonne le fruit de son travail, pour le dire très vite. Donc c'est les vacances scolaires, mais c'est aussi le moment où c'est pour ça qu'elles sont aussi, elles étaient liées à l'été, parce que c'était avant c'était mi-juillet, mi-septembre, pour que les petits paysans puissent aller moissonner. Voilà, donc c'était un moment quand même de travail pour certaines catégories, mais c'est le moment de la moisson. Et quand on fait des enquêtes, ce qui revient, c'est que la première motivation de départ, en fait, des vacances, c'est se reposer. La deuxième, c'est se retrouver. Ensuite, l'industrie du tourisme arrive et, on va dire, impose des imaginaires qui font que
ça devient voyager,
il faut
finalement
aller consommer pour se reposer, se retrouver. Mais ça ne correspond pas à la majorité de ce que les gens espèrent. Mais simplement, par exemple, ça va coûter moins cher de partir une semaine en avion, enfin moyen courrier ou même long, plutôt que de rester une semaine dans un espace qui serait accueillant en train ou en 4 heures de voiture. Mais en moyenne, les Français partent à 4 heures de voiture en vacances.
Aude Vidal, cette critique de l'excès de fréquentation touristique, hein, qu'on voit beaucoup évidemment, ça dit quoi en fait? Ça stigmatise quand même certaines personnes en particulier, non?
Bah, moi j'ai l'impression que les critiques du tourisme qu'il y a eu vers la fin des années 2010, notamment à propos des luttes urbaines et à propos de l'influence d'Airbnb et du fait que ça tendait beaucoup les marchés immobiliers, et on a vu des luttes dans des villes, bah, d'abord des grandes capitales européennes, et puis maintenant dans des plus petites villes, que ce mouvement-là, en fait, il s'est plutôt dirigé vers un tourisme qui me semble être un tourisme plutôt de classe moyenne qu'un tourisme de classe populaire. Alors que traditionnellement, on va dire la critique du tourisme de masse, du tourisme avec beaucoup de monde, c'est une critique qui tient à des lieux de villégiature qui sont les stations balnéaires plutôt populaires. Et là, au contraire, c'était plutôt un tourisme de classe moyenne, de gens qui vont passer le week-end à Barcelone ou une semaine à Berlin. Et donc, c'était assez étonnant, mais on n'a pas parlé en termes de classe. Il y avait un peu d'agacement, un peu de... Et si on en a parlé en termes de classe, c'est plutôt dans des milieux très radicaux.
Mais le voyage aujourd'hui, c'est un outil de distinction sociale ou pas alors?
Eh ben, il y a la particularité, c'est que c'est à la fois quelque chose d'assez mimétique, parce qu'on a tendance à voyager là où on voit que d'autres voyager, et c'est peut-être pour ça que sur les réseaux sociaux, il y a des entraînements et des effets de concentration, et à la fois, il y a quelque chose de l'ordre de la distinction. Et je pense qu'ils sont pas non plus, c'est pas complètement contradictoire, parce qu'on a envie de se distinguer des gens un peu comme soi pour imiter des gens qui sont de statut supérieur.
Ouais, c'est ce qui est cousin.
Oui, en fait, il y a une différence entre le voyage, les vacances et le tourisme. Et donc, effectivement, dans le tourisme, il y a quelque chose de mimétique. Hein. On veut aller dans la chambre bleue de la guest house, comme on l'a vu, ou comme ça a été relayé sur Insta, ou se faire une photo, voilà. Alors qu'il y a tout un imaginaire, mais au-dessus d'une image, une imagerie des vacances populaires, où il n'y a pas de photos qui circulent, en fait. Les photos de souvenirs, ceux dont se souviennent les gens, ce qu'ils vont garder entre eux, c'est pas ça qui va être parfois distribué sur des réseaux sociaux, mais c'est pas ça. Donc il y a vraiment une différence. Et donc la volonté de voyager, en fait, elle est assez socialement construite.
Alors aujourd'hui, certaines destinations laissent songeurs, puisque nous sommes quand même dans une émission d'écologie, ces sites ou ces régions du monde que l'on va visiter parce qu'ils ou elles sont en train de disparaître sous nos yeux. Et qu'au nom de leur protection, on va y faire un petit tour. Exemple de l'Antarctique, on va écouter ce reportage de l'AFP en novembre 2019.
Mesdames et messieurs, je vous souhaite une merveilleuse première journée en Antarctique. Habillez-vous chaudement et profitez-en.
C'est l'annonce du capitaine qu'ils attendaient tous, malgré les bonnes intentions affichées. Les voyageurs qui traversent le globe pour s'y rendre et les voyagistes qui y opèrent sont au cœur d'un paradoxe. En moyenne, chaque touriste dégage 5 tonnes d'émissions de CO2 pour aller au pôle sud.
Nous le faisons parce que nous voulons voir et nous le faisons d'une façon aussi responsable que possible. Mais cela ne nous arrêtera pas.
Aude Vidal, ça c'est un des exemples que vous citez dans votre livre Dévorer le monde chez Payot. Voyager en Antarctique pour aller observer la fonte des glaciers d'une façon la plus durable possible, respectueuse de l'environnement. Est-ce que là, franchement, il y a quelque chose qui ne va pas quand même, non?
Ah oui, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est le journaliste Michael Correa qui cite qui cite, enfin qui est allé interviewer les naturalistes qui font ces leçons de nature pour
sur ces bateaux de croisière, par exemple, hein, absolument, parce qu'il y a des scientifiques qui cautionnent ça. Hein.
De luxe, ouais. Et ces gens-là, là, les naturalistes disent qu'il y a un intérêt très très modéré en fait pour les questions qu'ils ont et le savoir qu'ils ont à partager.
Ouais, mais ils y vont quand même.
Oui, ils y vont quand même. Alors, je ne connais pas du tout le statut de ces gens-là, si c'est des gens qui sont précaires ou qui, au contraire, ont des postes. Mais en tout cas, ils sont assez formels sur le fait qu'il y a un désintérêt assez complet sur ces questions-là et qu'on est surtout dans la consommation d'un voyage ostentatoire.
Ouais. Saskia Cousin, on marche sur la tête quand même, non ?
Oui, absolument. Mais c'est comme aller dans l'espace. Voilà, on a fait l'Antarctique, on a fait la Lune. Donc, on défait, en fait, à vitesse grand V dans une logique ostentatoire, de consommation ostentatoire.
Mmh. Avec des billets qui peuvent aller jusqu'à 25 000 euros hein, pour faire une croisière en Antarctique. Vous parlez de ces croisières 5 étoiles.
Hein, mmh. Avec, ouais. Alors pour ce prix-là, j'ai entendu dire qu'on pouvait faire l'Orient Express version luxe. Bah, c'est une expérience qui m'intéresserait plus et qui est sûrement beaucoup moins...
Oui, mais pour aller en Antarctique, c'est plus compliqué de prendre l'Orient Express quand même, non ?
Oui, c'est ça.
Il faut choisir bien sa destination. Vous parlez aussi de la question du logement, Aude Vidal, la question du mal-logement, alimentée notamment par la recrudescence aussi des locations touristiques comme Airbnb, ce qui pousse dans certaines villes les personnes mal logées à voyager ailleurs pour changer d'air. C'est ce que vous nous racontez.
Non, pas exactement ça, mais en tout cas, sur la question du logement, je pense que c'est vrai qu'il y a eu des choses qui ont été très visibles sur Airbnb, mais c'est aussi une question quand même qui est hyper complexe et que je maîtrise pas très très bien, et qui a quelque chose à voir aussi avec la libéralisation des prix des loyers, avec les spéculations immobilières et tout. Donc je pense que c'est un sujet qui est vraiment très très compliqué, mais le tourisme, c'est un peu la cerise sur le gâteau, la chose qu'on voit le plus, parce que notamment, ces gens-là qui ont des valises à roulettes, qui vont et viennent, qui ont des us qui sont différents de ceux des gens du quartier. Mmh. Je pense que c'est beaucoup plus visible, en fait. Et ça un peu symbolise enfin, toutes les luttes qu'il y a de longue date des associations de locataires, de personnes mal logées, etc. Toutes ces luttes-là, elles se sont un peu focalisées et elles ont eu une audience aussi parce qu'elles s'attaquaient à un objet qui est un objet du quotidien qui parle à tout le monde, c'est la location Airbnb.
Oui, c'est ça. Ouais. Saskia Cousin, c'est nous tous en même temps, hein, c'est location Airbnb, c'est-à-dire qu'on participe très souvent à alimenter la machine quand même.
Oui, tout à fait. Je me souviens de discussions très très tendues quand on a fait des enquêtes justement sur cette question-là. Mais c'était pas Airbnb, c'était une autre à Barcelone en 2010. Donc il y avait déjà la façon dont Manu Militari, les habitants des quartiers populaires de Barcelone, étaient évincés. Mais en fait, il y a aussi un enjeu de réfléchir à tous les gens qui voyagent et qui ont besoin d'être logés, qui sont pas forcément des touristes. Le collectif Marseille Hospitalité travaille là-dessus. Et donc il y a vraiment des enjeux en fait de comment on loge des gens en stage, étudiants, etc. En réponse, on a un problème qui est que finalement, on a des niches fiscales qui vont bénéficier à des multipropriétaires hein, qui vont faire du Airbnb. Mais il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain, au sens que il y a un problème de logement des personnes qui sont là et qui sont invisibles dans les statistiques touristiques, mais qui sont très, très importants, qui doivent être accueillis. Et comment on y réfléchit ? Mais peut-être en revalorisant des formes d'habitat temporaire qui existaient avant et qui ont été dévorées, en fait, par les plateformes type Airbnb.
Mmh. Aude Vidal, encore un exemple intéressant, puisque vous racontez que dans de nombreuses régions très touristiques, les populations n'ont pas tellement le choix que de se tourner vers l'économie justement du voyage, qui est bien plus lucrative. Et vous citez l'exemple de Pornic, sur la côte atlantique, avec une personne, je crois, qui était éleveuse de chèvres, c'est ça ?
Alors oui, c'est un éleveur de moutons.
Moutons, pardon.
Mais, enfin, de brebis. Oui, c'est un paysan qui témoignait de la difficulté à se loger. Alors pour s'installer, ça a été assez facile, parce que il y avait un intérêt du département à lui céder des terres, notamment parce qu'elle était sur le littoral, et ça permet de garder un milieu ouvert avec des belles vues sur l'océan.
Ouais.
Et donc ça a été facile de s'installer, mais en revanche, pour habiter sur place, ça a été vraiment très très compliqué. Et donc c'est facile de se loger de septembre à juin, mais en général, les gens ont envie d'être logés toute l'année, notamment quand ils ont une activité comme ça, comme celle de l'élevage qui interdit de partir 2 mois en vacances. Donc il est... c'est des difficultés qui sont récurrentes dans les endroits touristiques, et pas seulement pour des locations courte durée, mais aussi pour des résidences secondaires. En fait, il y a aussi beaucoup de pression qui est due aux résidences secondaires.
Comment réinventer le tourisme, le rendre peut-être plus écologique, les fausses bonnes idées dans un instant, et puis vos messages, vos témoignages sur la page de La Terre au Carré.
Mathieu Vidard, La Terre au carré.
En fait, je vous ai pas dit, mais je pars à la Réunion pour Noël.
Mais c'est trop bien, tu dois être trop content.
Ouais, par contre, tu dois pas avoir hâte de calculer ton empreinte carbone.
Attends, mais tu devrais être contente pour lui. Moi, par exemple, pour aller voir mon père au Canada, bah déjà, le voyage n'est toujours pas d'actualité. Et pour Maë, c'est différent, tu vois. Lui, c'est vital de prendre l'avion.
Oui, bien sûr. C'est un geste pour lui, mais c'est la réalité.
Écoute, je te propose de fermer ta bouche, comme ça tu pollueras moins, non? Ok?
Bien dit.
Voilà, c'est tendu la question des voyages quand on veut être un peu d'écologie dans le sujet. La série Askip l'année dernière. Comment on réinvente le tourisme aujourd'hui, Aude Vidal et Saskia Cousin, vous qui êtes toutes les deux anthropologues, nos invités dans la Terre au Carré. Saskia Cousin, on va commencer avec vous. Par quoi on commence pour essayer de réfléchir à l'avenir du tourisme, selon vous? Et pour le réguler peut-être, quelque peu.
Ben, je pense qu'on commence par la régulation. Ouais. Ça dépend si on cherche à penser à l'avenir du voyage et des vacances ou celui du tourisme. Le tourisme, c'est l'industrie. Donc en fait, moi je pense que le problème, c'est qu'on prend les choses à l'envers et on les prend du point de vue de la pérennité de l'industrie. Or, l'enjeu, c'est quand même l'accès au voyage, pour, en tout cas pour des jeunes générations, pouvoir continuer à faire un grand voyage, et pas forcément en avion, et le droit aux vacances. Et si on prend les choses dans ce sens-là, on repose la question différemment. Donc la question, c'est la sécurisation des vacances, des congés, pour pouvoir profiter du temps. Et puis, comment est-ce qu'on peut permettre ça? Moi, je serais pour une sorte de sécurité sociale du voyage. Voilà. Par exemple, que quand vous passez votre bac, ou en tout cas vous arrivez à un certain... Voilà, vous avez 18 ans, vous avez la possibilité de faire un voyage, et puis quelques voyages dans votre vie, si ça implique un...
Avec une aide financière pour les plus faibles revenus. Hein.
Parce qu'on voit que... Enfin, ce dont on discute, ça touche pas 5% de l'humanité, en fait. Donc l'industrie a une pression sur le monde global, et donc en fait le risque, c'est que plus personne ne puisse partir, quel que soit le moyen. Tout le monde a envie à un moment donné de voyager. Donc c'est la question de comment on réduit le départ de quelques-uns, en fait elle concerne le monde entier. Et on voit que c'est une toute petite partie de la population qui part plein de fois dans l'année. Il y a des gens qui prennent l'avion, mais ils vont partir pendant 3 semaines, en fait. C'est pas la même chose que de partir 10 fois dans l'année. Donc, je pense que l'idée, c'est de réfléchir à une forme de sobriété de nos départs.
En voyage.
En voyage.
Aude Vidal, je vous donne les clés du ministère du Tourisme, avec une casquette écolo, évidemment. Qu'est-ce que vous nous proposez d'emblée? Votre première mesure forte, ce serait quoi?
Bah, la première mesure forte, je pense que celle qui est la plus importante et tout, c'est d'arriver à mettre en place des procédures pour taxer le kérosène des avions, parce que c'est un accord mondial sur lequel il sera difficile de revenir qui a fait que le kérosène n'est pas taxé.
C'est la convention de Chicago, hein.
Exactement. Mais en revanche, c'est tout à fait possible d'introduire des accords bilatéraux, de le faire au niveau français, de le faire au niveau européen, et puis de le retricoter petit à petit. Et ça, pour l'instant, c'est pas l'agenda. Même quand on a beaucoup parlé de précarité énergétique, même quand on s'est rendu compte qu'il y avait des maladies comme la tuberculose qui revenaient, en particulier aussi parce qu'il y avait des logements qui étaient pas chauffés, des gens qui ont plus les moyens pour se chauffer.
Oui.
Le kérosène des avions restait pas taxé, ce qui a un côté vraiment scandaleux, parce qu'encore une fois, on en parlait sur le logement, là maintenant c'est sur l'énergie. Il y a un système dans lequel les besoins de base de gens sont pas couverts, tandis que les envies aussi extravagantes soient-elles des gens qui ont des moyens sont en revanche totalement libres.
Ça se cacousin sur la taxation du trafic aérien, du carburant du trafic aérien, vous êtes d'accord aussi là-dessus?
Oui, absolument. En fait, c'est 44 ou 49, la convention de Chicago. À un moment donné, on était à on était à 25 millions d'arrivées internationales. Aujourd'hui, on est à 1,5 milliard. Et donc, on n'a pas changé. Et il n'y a pas de taxation à l'échelle internationale, mais même pas à l'échelle nationale, et ça, le gouvernement français pourrait l'envisager avec les autres pays européens. Donc, c'est encore une fois, l'enjeu, c'est d'abord des choix politiques et démocratiques, qui est que, effectivement, les gens ont d'abord besoin de se chauffer avant de partir en week-end à Barcelone.
Aude Vidal, l'écotourisme, ça marche ou pas? Vous parlez de solutions ambiguës sur la question. Il faut quand même en dire un mot, parce que...
Oui, ambigu.
On croit parfois bien faire.
Ambigu, c'est un mot qui va très bien avec l'industrie touristique. Oui, l'écotourisme, je pense que c'est assez compliqué, parce que c'est mal défini, déjà. C'est une notion qui est arrivée un peu en même temps que le développement durable. durable à la fin des années 80, mmh. avec trois piliers, encore une fois, et avec un développement des territoires locaux, avec un faible impact, éducation à la nature, etc. Et moi, j'ai vu des choses s'appeler écotourisme, qui sont du tourisme de nature avec des pailles en papier.
Ouais.
Et c'était le grand geste, c'était de se débarrasser de quelques icônes comme ça de la pollution.
Ouais.
Et en revanche, pour le reste, ça restait, on restait dans le même phénomène, donc
c'est
tourisme
ça.
De nature.
Ça s'appelle le greenwashing, quoi, finalement.
Hein. Exactement, ouais, du greenwashing. Et aucune réflexion sur comment est-ce que les gens sont venus, parce mm-hmm. que c'est un tourisme qui peut s'adresser à des gens qui viennent de 10 000 km plus loin. Et ça, c'est un impensé du. Ouais. De l'écotourisme.
Allez, on passe au témoignage. Et Anne-Claire qui nous dit comment voyager autrement en mettant son vélo dans le train, en allant dans les hébergements proposés par des plateformes qui indiquent leur distance par rapport à la gare. C'est super agréable de partir ainsi, on fait de très belles rencontres. Voilà pour un témoignage. Sophie nous dit, je ne prends plus l'avion, voyager en Europe n'est pas plus difficile, il y a plein de lieux magnifiques accessibles en train ou en car, mais c'est un choix parce que c'est plus long, plus cher, mais avec un vrai goût de l'aventure, d'inconnu et de folie. Je vous donne également le témoignage d'Erika qui nous dit, j'ai toujours été attirée par l'étranger et les langues, j'ai beaucoup voyagé à la Mon compagnon actuel a une grande conscience écologique et me force à remettre ce désir en question. À quoi répond le besoin d'un voyage lointain ? Je pense qu'il s'agit, dit-elle, d'un désir de se valoriser via une surconsommation de voyages et répondre aux injonctions de la société. Saskia Cousin, vous voulez répondre à Erika là-dessus ?
Oui, je suis d'accord, mais encore une fois, il faut que... Enfin... Ceux qui ont beaucoup voyagé font aujourd'hui un travail de réflexion là-dessus. Donc, il faut faire très attention. Il y a beaucoup de gens qui aussi ont envie de faire un grand voyage une fois. Mais je suis tout à fait d'accord. Et sur le fait que l'aventure est au coin de la rue, peut-être beaucoup plus que d'aller à l'autre bout du monde.
Ah ouais. Oui, ça serait facile de fermer la porte derrière soi, en fait. Et puis de dire, moi j'ai beaucoup voyagé, c'était très bien, merci. Mais maintenant, je pense qu'il faudrait tous être un peu plus sobre.
On est d'accord. Et en particulier pour les jeunes générations qui, elles aussi, ont besoin de voir le monde. Allez, dernier message d'Olivier. J'ai compris il y a bien des années qu'il fallait changer radicalement de pratique de déplacement. J'ai donc signé il y a plus de 5 ans que je ne prendrai plus l'avion. Depuis, je fais des voyages à vélo d'une semaine. Ça me procure de vraies vacances. Il faut dire que j'ai un jardin qui me procure de grandes satisfactions, ce qui n'est pas donné à ceux qui habitent en appartement. Voilà pour ces questions, évidemment, sociales. Merci beaucoup, en tout cas, à toutes les deux. Saskia Cousin, un petit mot, c'est le 20e anniversaire de votre séminaire, c'est ça ?
Oui, tout à fait. C'est le 20e anniversaire de séminaire TRIP, Tourisme, Recherche, Institution Pratique. Et puis, pour moi, c'est aussi un moment pour passer la main avec des super collègues. On fait ça à Angers le 30, lundi prochain, lundi voilà. mardi
30
prochain.
30 juin et 1er juillet.
À Angers, donc bienvenue à l'ESTUA pour discuter. C'est pas un colloque scientifique, c'est vraiment des tables rondes sur qu'est-ce qu'on fait dans les 20 prochaines années.
Merci beaucoup. Et puis, Aude Vidal, je renvoie sur votre ouvrage « Dévorer le monde, voyage, capitalisme et domination ». C'est aux éditions Payot. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci à Joël Levert qui a préparé aujourd'hui ce dossier.